The Beat, The Culture, c'est LA nouvelle émission qui va te faire découvrir l'univers du beatmaking et de la culture afro et diaspora en France. Un lundi sur 8 à 20h sur le 93.9 FM et en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Et bienvenue à l'édition spéciale de The Beat, The Culture Summer Edition à la place Centre Culturel Hip Hop. Et qui dit édition spéciale, dit co-animation spéciale, puisque aujourd'hui, ce soir, je suis accompagnée pour la première fois par Fabrice.
Salut à toutes, salut à tous.
Moi, je suis Moudiama, et Fabrice et moi, on va vous accompagner sur toute la programmation ce soir. Merci au Crous et au CVEC de soutenir et de sponsoriser l'événement d'aujourd'hui. Et les gars, quel événement! Je ne sais pas si vous avez vu la programmation. Mais on a un talk sur le beatmaking, donc intelligence artificielle alliée ou ennemie des beatmakers.
Et un talk sur la culture afrodescendante. Est-ce qu'un artiste afrodescendant-descendante doit-elle forcément représenter la culture afro? Deux showcases, le premier de Sharky et Bramzo Le Plug, tout d'abord, première partie, puis de Noura on the track. Et parmi les titres, vous entendrez aussi des exclus ce soir.
Et ensuite, ce sera à vous de jouer. Parce qu'on va faire un petit blind test sample. Et là, moi, je vous dis que le meilleur gagne, c'est qu'il y a des grosses têtes dans la salle.
Exactement. Pense à vous dans la salle. Et enfin, à la fin, à la toute fin de cette émission de 5 heures, moment d'enjaillement avec un DJ set concocté spécialement pour vous par notre incroyable DJ It's Your Girl No. Donc, restez bien jusqu'au bout.
Et ouais, restez bien jusqu'au bout. On est ensemble pendant 5 heures extraordinaires en direct de La Place, Centre Culturel Hip Hop et sur le 93.9 FM.
The Beat the Culture Summer Edition, c'est maintenant sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, on va accueillir les invités du premier talk. On va les accueillir un à un, on va les introduire.
Allez, donc on accueille d'abord Junior, qui est créateur de l'Académie du Sample, où on parle notamment de l'histoire de la musique assistée par ordinateur. Tu peux t'asseoir. Ouais. Et aussi, tu es, si tu nous corriges bien, professeur de culture urbaine.
Au conservatoire.
Au conservatoire. C'est bon pour toi? Ok, super. On a accueille ensuite Shrabzus, qui est beatmaker et animateur du podcast Tech Quality Time.
Et qui est membre aussi de Super,
du collectif Super Sample Paris. On peut applaudir nos invités petit à petit.
Bonsoir à tous.
Ensuite, on accueille Pierrick, donc, qui est compositeur, sound designer et créateur du collectif 4.30 PM. Est-ce qu'on le dit bien déjà?
Oui, je crois qu'on le dit bien, 4.30 PM.
Ok, super, nickel. Donc, le collectif fait du sound design et de l'accompagnement artistique. Et enfin, Bramzo Le Plug, qui est beatmaker, utilisateur de l'intelligence artificielle dans ses projets et qui va être un des deux acteurs du showcase de la fin de cette première partie. Et il a fait un projet commun qui s'appelle Fusion, qui est sorti le 31 mai 2024, un EP de 10 titres.
Bah, merci la team d'être là ce soir. Je pense qu'on peut tous les applaudir maintenant qu'ils sont sur le plateau.
Merci.
Merci à vous quatre. Donc l'idée là, c'est Justine à Moudiyama, c'est petit spoil,
ouais.
A posé comme premier thème l'intelligence artificielle alliée ou ennemie des beatmakers. Est-ce que là, comme ça vous parle?
Oui, bien sûr. Donc on se lance dans le sujet immédiatement.
Ouais, en vrai, la première question même j'allais dire, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA dans vos compositions? Est-ce que vous l'utilisez quotidiennement? Est-ce que c'est un truc qui vous fait flipper ou un truc dans lequel vous plongez dans un corps entier, quoi?
Oui, bah moi personnellement, bien sûr, je l'ai utilisé comme tout le monde, je pense. Ça serait dommage de pas s'en servir. Ça me fait pas peur. Ça me surprend beaucoup. C'est sûr, ça me ouais. Je reste sur le cul souvent de savoir, enfin, chaque jour de voir ce qu'elle est capable de faire, car elle fait toujours plus. Et ouais, je m'en sers pour mes prods, que ce soit au niveau du mixing. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, l'intelligence artificielle, avec un service qui s'appelait Lender. Je sais pas si vous connaissez. J'avais payé la petite subscription. C'est un des rares trucs que j'ai payé dans le beatmaking. Voilà.
Et tu peux expliquer ce que ça fait exactement? La piraterie!
Comme s'il y a des gens qui t'écoutaient.
Venez me chercher, je vous attends. Oui, c'est ça. Et puis après, bien sûr, c'est rentré dans mes prods. comme un peu tout, mais bon, je vais pas trop déflorer le sujet, je vais laisser les autres répondre.
Moi, je l'utilise pas du tout.
Je suis pas étonné.
Mais vraiment pas du tout. Ben, en fait, j'ai déjà testé. J'ai vraiment testé pour voir ce que ça pouvait faire. J'ai sur ChatGPT, j'ai dit vas-y, écris-moi une chanson. J'ai récupéré la chanson, je l'ai mis, je me rappelle plus c'était quel logiciel de, mais du coup, j'ai mis les textes. J'ai dit vas-y, fais-moi un son zouk et il m'a fait un vrai son zouk.
Mais c'est-à-dire ChatGPT genre
ChatGPT, il m'a écrit les textes.
Ouais.
Et du coup, après j'ai mis les textes sur le logiciel de MAO.
Okay.
Pas de MAO, d'intelligence artificielle pour la musique.
Okay. Coup, deux fait... intelligences artartificielles
ouais.
différentes.
Et il m'a fait un vrai son. T'avais envie de danser dessus, quoi. Mais vraiment bien. Mais malgré, ouais, j'ai peut-être tapé, en gros, fais-moi une chanson de zouk sur pourquoi tu m'as quitté, tu vois, un truc comme ça. Mais pour moi, c'est pas comme si je l'avais fait moi-même.
Ouais.
Et ça m'a dérangé, en gros. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas.
Et tu t'es dit plus jamais, quoi.
Pour s'amuser, ouais.
Ok.
Donc tu continues quand même à l'utiliser, ouais.
Pour vraiment pour s'amuser. Si j'ai envie vraiment de faire de la création, je préfère tout faire.
Ok. Moi, je pense à Allié de fou. Genre, j'utilise pas, par contre. Pareil, je pense que la première fois que j'ai entendu, c'était sur Lander. Et tu sais, t'envoies ta prod pour voir si ça sonne mieux ou pas. Ça sonne pas mieux, mais tu sais, ils montent un peu le son, tu crois c'est stylé. Du coup, je suis en mode, ça a l'air pas mal, mais je pense que c'est quand même important de rentrer dans les détails de la musique et comprendre ce que tu fais. Mais genre, pour moi, c'est quand même un allié, parce que je pense que ça peut nous alléger sur certaines tâches, et il faut juste savoir comment l'utiliser.
Comme quoi, par exemple, quelle tâche
Par exemple, si c'est juste séparer certains éléments, tout ça, etc., ça peut aider rapidement, parce qu'en fait, ça fait juste aller plus vite. Et le but, je pense, c'est aller plus vite, pas forcément tout faire sur certains éléments. Arrête, c'est toi qui joues. Et même, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes utilités de la musique. Du coup, peut-être un IA qui fait une musique zouk parce que j'ai besoin d'une musique zouk, ça me suffit. Ou peut-être je suis un compositeur qui fait de la musique zouk. Du coup, j'ai envie d'aller dans le deep du zouk. Mais je pense pas que c'est un truc qu'on doit genre cracher dessus. Genre, c'est, pour moi, c'est utile et ça doit être utilisé.
Mais d'ailleurs, moi, The Beat The Culture, je suis très pro vulgarisation à fond. Comme ça, j'ai pas mes parents qui m'appellent pour me dire j'ai écouté, j'ai rien compris. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer de manière la plus simple possible ce que fait Lander?
Oui, bien sûr. On n'a pas eu ton avis, du coup, je ne sais pas si tu sens.
Pour le coup, j'ai jamais utilisé Lander. Donc, okay.
De toute façon, j'allais venir. T'inquiète pas, Bram, j'allais venir à toi dans tous les cas. Et comme ça a été mentionné déjà deux fois, je me dis.
Tu peux répéter la question, pardon.
Est-ce que vous pouvez expliquer de la manière la plus simple possible ce que fait Lander à quelqu'un qui n'a jamais fait de beatmaking?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu comme ce que fait iZotope, pour ceux qui connaissent.
Les non-beatmakers ne connaissent pas iZotope.
Genre, il faut être le plus simple possible.
Alors, en fait, il va analyser ton son en appliquant certains algorithmes dessus. Et vis-à-vis des résultats, il va booster certaines choses, muter certaines choses, enfin baisser certaines fréquences, compresser, appliquer beaucoup d'effets de mastering pour rendre le son meilleur. Et bah, après, c'est la question vis-à-vis de l'IA... En général, c'est que meilleur, c'est subjectif, quoi. Et c'est selon le développeur de l'intelligence artificielle que le son est amélioré, quoi. Donc, Lander te propose une version améliorée de ton son, mais qui va pas forcément te parler à toi-même. Et c'est ce qu'on reprochait, je pense, avec Pierrick à demi-mot. C'est que pour un amateur, du coup, il va avoir l'impression que son est mieux, mais peut-être une oreille un peu plus exercée va être moins convaincue du résultat.
Donc c'est un peu pour les débutants ou comment ça se passe?
C'est pour les débutants et c'est pour un gain de temps aussi, je pense, surtout pour avoir un résultat satisfaisant très rapidement. Puisque oui, Lander, c'était quasiment instantané. C'était pas instantané, moi, à l'époque où j'avais Khalas pour l'abonnement. T'attendais un petit peu, puis t'écoutais ton son, après t'étais là. Bon allez, j'ai trop investi de temps, je pense que je vais dire que c'est mieux. Je vais partager ça sur les réseaux. Mais oui, une fois que tu commences à prendre en main le mastering et à vraiment comprendre ce que tu fais, ce que tu appliques comme effet, t'as des résultats qui sont plus satisfaisants pour ton oreille parce que tu sais ce que tu fais et tu sais ce que t'améliores et t'écoutes vraiment ce que tu fais.
Vous avez parlé de Lander. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce qu'il y a d'autres logiciels? Peut-être que ça peut aussi apporter une oreille différente, un regard différent.
Ben, je crois que l'intelligence artificielle, on le retrouve partout. Parce que là, tu parles pour le mixage ou pour le mastering. Mais en vérité, on le retrouve dans toutes les disciplines. Moi, j'utilise un peu Photoshop et InDesign aussi. Et en fait, quand j'ai pris mes cours de web designer, parce que j'ai fait une formation là-dessus, en fait, j'ai vu qu'en gros, comme tout à l'heure, tu disais, faut l'utiliser pour gagner du temps, du coup. Et je trouve ça intéressant de l'utiliser vraiment pour gagner du temps quand il y a des tâches, soit que tu sais pas faire, soit que t'as pas envie de prendre des heures à le faire. Et là, il y a un intérêt. Mais après, sur le côté créatif, quand je générais une photo ou un design qui était pas fait par moi, c'est toujours la même impression.
Oui, tu te sens pas impliqué en fait dans le process.
Ouais, complètement. Donc c'est bien pour les tâches, comme les robots en vérité, les tâches qu'on n'a pas envie de faire et qui sont pénibles, c'est très bien pour ça. Mais sur la création, il faut qu'il y ait de l'humain.
Mmh, du coup. Je vois. Et du coup, Bramzo, toi, une des choses qui apparaît en premier quand on tape Bramzo le plug sur Google, c'est un article justement sur ton utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ouais. Toi, tu as une expérience en direct avec. Est-ce que tu peux nous en parler aussi?
Ouais, pour le coup, après moi, je l'ai utilisé pas forcément dans le domaine du beatmaking, mais plus sur ma voix, dans le sens où vers mars 2023, c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé un peu à péter sur Internet le fait de transformer sa voix en un autre artiste. Et j'ai trouvé que le temps d'un projet, je pouvais faire quelque chose de conceptuel où justement j'allais créer une dualité entre moi, Bramzo le plug, et puis à certains moments transformer un peu ma voix et tout. Après, il y a toujours ChatGPT qui peut t'aider à écrire un texte et tout, mais personnellement, j'utilise plus tant l'IA parce que c'est un peu une cage dorée. Ça veut dire que c'est de la facilité. Derrière, au niveau de la création, ça peut te brider. Donc, personnellement, c'était le temps d'un projet.
Ouais.
Mais là, aujourd'hui, j'utilise plus du tout l'intelligence artificielle. Enfin, surtout dans le domaine audio, j'utilise quasiment plus. Après, comme les frérots, ils ont dit, il y a Isotope. Ils ont mis au point, justement, des intelligences artificielles qui te font déjà des pré-réglages mastering. L'outil, en fait, c'est l'outil auto-mastering. Là, je sais pas si tu vois de... Ouais, tu vois. Donc, voilà. Après, tu peux l'utiliser, mais... Encore une fois, dès qu'il y a une oreille aguerrie qui va entendre le son, cette personne-là pourra déceler en fait des choses à améliorer.
Ouais, à l'heure actuelle, ça remplace pas du tout un ingé son, hein, malgré que ça utilise les mêmes effets, les mêmes plugins, enfin les mêmes types de plugins, EQ, compresseur, etc., imager, maximizer, tout ça. Ça remplacera, enfin, à l'heure actuelle, ça remplace pas un ingé son qui va vraiment prendre couche par couche et vraiment masteriser le son, quoi.
Mais après, pour être juste avec Isotope, ils n'ont jamais dit qu'ils essayaient de faire quelque chose qui va remplacer. Ils disent toujours, nous, on vous propose une assistance. Faites quelque chose après.
Ouais, tous les développeurs d'IA ont le même discours. Ouais. On n'est pas là pour remplacer les graphistes avec Photoshop, avec l'IA de Photoshop. On n'est pas là pour remplacer les créateurs de contenu textuel avec ChatGPT et OpenAI. Bah,
puis surtout, je trouve que ça a encore ses limites. On n'est pas encore arrivé à un point où ça surpasse l'homme. Dans le sens où il y a même des intelligences artificielles qui peuvent créer des progressions d'accords,
ouais,
qui peuvent générer des accords et tout. Mais généralement, le résultat, il est assez cheap, en fait.
Ouais.
Te crée une base. Ça peut te donner une bonne base à retravailler derrière. Mais te donner une mélo vraiment qui va te sublimer un son, je pense pas qu'on en est encore là.
Ouais, justement, pas encore. C'est vrai qu'il y a des intelligences artificielles aussi qui, sur base d'un prompt, peuvent générer un type beat ou une loop ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a une app qui s'appelle Udio qui fait ça. On met un prompt de, je sais pas, trap mélancolique écossaise et ça va essayer de sortir quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui va pas être très cohérent, que ce soit en termes de son et aussi quand on rentre un peu dans l'aspect technique de des BPM, des fréquences et tout ça. Mais les intelligences artificielles s'alimentent aussi avec le travail des beatmakers, en réalité, le travail de... Enfin, en fait, s'alimentent avec ce que l'humain fait. Du coup, est-ce que vous avez confiance ou est-ce que vous avez peur dans le fait que l'intelligence artificielle se développe au point où en 2050, peut-être elle sera supra-intelligente?
Est-ce que c'est vertueux ou dangereux, en fait?
Ouais.
Alors, simplement. Moi, je me dis, ça dépend pourquoi on fait de la musique.
Mm-hmm.
Est-ce que quand on fait de la musique, ce qu'on cherche, c'est que le résultat ou c'est tout le parcours qui nous mène à ce résultat-là.
On revient à la créativité, en fait.
Complètement. Parce que du coup, système, si t'arrives, si tu fais ton truc, le truc, il est déjà fait, et en fait, tu t'es pas pris la tête à aller chercher, à essayer de composer et tout. C'est ça qui est beau dans la création. C'est justement le temps que t'as mis, le temps que... par exemple, par rapport au message aussi pour les plus jeunes, est-ce qu'ils vont se prendre la tête à prendre des cours de musique si derrière, il y a un ordinateur qui peut le faire à leur place. Et c'est ça que je trouve dérangeant dans l'intelligence artificielle. Et on l'a bien vu même avec les élèves et les professeurs. Les élèves, en gros, les rédactions, ils les font sur ChatGPT, quoi. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils vont pas aller chercher, se documenter.
Ah ouais.
Et ils vont prendre le texte qui a été généré et rendre la copie. Alors que ce qui compte, c'est pas la note. Ce qui compte, c'est le travail de recherche que tu as fait.
Ouais, mais je ne sais pas si tu le comprends quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, tu vois, quand on te donne un devoir, tu te dis, OK, ouais, ça, je peux le faire. Enfin, je sais pas, tu vas dans un bouquin d'histoire, OK, tu réécris la phrase, tu réécris la page. Mais quand tu dois vraiment créer, au début, OK, tu comprends pas trop. Parfois, tu y vas parce que tu as envie. Et limite, en fait, tu oublies l'intelligence artificielle parce que tu es trop dans ton truc. Tu te lances, t'as ton idée, tu cherches, etc. Donc, ça dépend ce que tu fais. Si vraiment t'as pas envie de le faire, tu te dis, ah, vas-y, il y a une IA qui sait le faire pour moi. Mais si t'as vraiment envie, si tu veux comprendre comment ça fonctionne, peut-être que t'y passeras pas ou certains points et pas d'autres.
Oui. Mais en fait, ce qui compte, on sait que ce qui compte, c'est les résultats, c'est les notes, c'est la validation. Mais, dans la vie, c'est pas ça qui compte en vérité. Et je pense que le message qu'il faut transmettre, c'est pas, ah ben, tiens, tu vas réussir à avoir ton diplôme. Parce que tu peux très bien avoir un diplôme. Et après, quand on te demande de le faire, ben, en fait, tu sais plus. Tu sais pas ou tu sais plus, quoi. Moi, si on me demande de repasser mon épreuve de bac, je me foirais complètement, même le permis. Hein. Donc en fait,
non, quand même, le permis.
Bah, aux États-Unis. Aux États-Unis, tu dois le passer souvent.
Mais je suis sûr que je fais plein d'erreurs.
Aux États-Unis, tu dois le passer, je sais pas, tous les X années.
Mais c'est ça qui est bien, c'est justement le fait de réviser et de réapprendre. Et c'est pour ça que en fait, c'est important de prendre des cours. Moi, je joue de la basse, j'en fais un peu moins, et ça fait un petit moment que j'en fais, et j'ai envie de reprendre des cours. J'ai jamais arrêté de prendre des cours de musique. J'en prends tout le temps. Parce que ce que j'aime, c'est apprendre et d'apprendre des nouvelles choses. Et de toute façon, on est humain. Il y a un moment où si on pratique plus, on sait plus faire. Et c'est pour ça que je me dis, alors, c'est bien d'avoir un robot qui fait les tâches pénibles à notre place. Mais si demain le robot, il fonctionne plus, comment on fait? Du coup, si demain, je sais pas, il n'y a plus Internet, comment on va faire de la musique?
Ce serait dommage quand même. C'est vrai que ce serait vachement triste, hein. Hein? S'il y avait une génération complètement paralysée qui se demande, mince, il n'y a plus Internet, je ne peux plus faire de musique.
Ouais.
Tu ne crois pas que ce n'était pas pareil avec les PC? Là, on entend beaucoup les gens qui disent, ah, ça y est, on taffe avec nos PC, ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus prendre un stylo. Bah, on le fait encore.
C'est vrai. Ouais.
Encore, ouais.
J'ai l'impression que Pierrick va dire quelque chose, non?
Il y a un petit peu entre les deux.
Non, il a été
pas en même temps.
Juste pour revenir, je pense que après, je suis d'accord avec l'idée que peut-être c'est le chemin le plus intéressant, mais je pense que selon l'outil et selon la volonté, comme t'as dit, de ce qu'on cherche, peut-être que la création elle va autre part. Et je me dis que peut-être que l'intelligence artificielle nous place plus en qualité de direction artistique plutôt que de créateur. Et du coup, est-ce qu'en soi, ce serait un mal de se dire, bah écoute, moi, tout ce qui est savoir faire de la basse, je m'en fiche un peu. Par contre, savoir décider quel genre de basse irait le mieux sur ma prod et que s'il arrive permet de le faire, bah c'est un art entre guillemets en soi. Enfin, c'est une créativité en soi.
Bah, en fait, ça dépend de l'individu. Ça dépend de ce que toi tu veux faire dans la musique. Moi, je parle, beaucoup de musiciens, je connais beaucoup de beatmakers et tout. Et en fait, je vois qu'on n'a pas du tout les mêmes profils. T'en as qui ont des styles de musique différents. T'en as qui ont des manières de composer différentes. Et en fait, ça dépend. Donc, si tu veux utiliser l'IA parce que tu veux te concentrer, je sais pas, sur les patterns rythmiques, et tu veux, je sais pas, générer, on va dire, une grille de, d'accord où t'as pas besoin de réfléchir, oui, mais en fait ce qui compte, c'est par rapport à toi. Si toi par exemple tu veux te perfectionner dans la rythmique, perfectionne-toi dans la rythmique. Si tu utilises l'IA pour pour autre chose, c'est pas grave, tu vois. C'est vraiment je me dis, c'est vraiment quelque chose qui est très très personnel, en fait. Dans la création, ce qu'il faut, c'est continuer à apprendre. Faut pas se dire, il y a l'IA, j'ai pas besoin d'apprendre. C'est ça le propos que j'ai voulu tenir. Du coup,
ça rejoint un petit peu le fait de... Peut-être tu voulais répondre.
Ouais, je voulais juste dire, mais du coup, ça veut dire, ça veut dire peut-être il y a l'IA, peut-être ça me permet d'apprendre autre chose qui me soit plus important dans l'immédiat que galérer sur des patterns rythmiques.
Ouais, mais après, c'est. En fait, le but de ce que, enfin, ce que j'ai voulu dire, c'est surtout qu'en fait, si on a quelque chose qui le fait à notre place, on va pas le faire, du coup. Et. Alors, soit t'es quelqu'un qui a envie d'être dans, enfin, de connaître parce que t'es quelqu'un de curieux et du coup tu vas aller chercher et tu vas tout le temps te poser des questions. Mais moi, par exemple, quand je génère des textes sur ChatGPT pour un site internet parce que j'ai pas envie de chercher, bah du coup, si demain tu m'enlèves ChatGPT et que tu me demandes de faire la même chose, je ne saurais pas le faire ou je vais galérer quoi. Donc il y a un problème dans l'apprentissage humain par rapport à ChatGPT parce que du coup ça nous fait plus réfléchir. Par nous-mêmes et ça nous fait pas aller se documenter, c'est ça hein. Mais après on choisit là où on veut aller. Si on a envie d'être de savoir bien écrire, alors soit on va sur ChatGPT ou soit on paye quelqu'un pour le faire à notre place.
Voilà, c'est ça. Pour souligner ce que tu dis, en fait, c'est que aujourd'hui on est dans un monde où en fait on est plus capable de faire beaucoup de choses et en fait on est conduit à faire beaucoup de choses, à faire de l'autoproduction. Donc tu vois, tu parlais de faire un site web, un beatmaker, il peut faire son site web, tu vois, il peut faire son beatstar, et il va avoir à créer beaucoup de contenu, donc faire sa communication. Justine, je sais que t'adores ça, la communication.
Ah oui.
Tu pourrais utiliser l'IA, tu vois, pour te décharger d'une partie, pour créer des visuels, tout ça. On connaît Canva qui fait ça. Donc l'IA, en fait, elle va te servir à créer du contenu sur différents supports qui te permettent d'avoir une ampleur qui est pas comparable à ce que tu pouvais faire il y a quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, on est obligé de tout faire en tant que beatmaker. Donc on fait ses prods, on va faire ses visuels, on va faire sa com, peut-être le networking, trouver des gens. Et puis ChatGPT, il est super bon pour donner des conseils, comment grossir son audience, quand publier sur les réseaux, en fonction de chaque réseau social. C'est très très fort. Et aussi, pour revenir encore à ce que tu disais tout à l'heure, un truc que j'ai observé, c'est que tu parlais de où est-ce qu'on met son orgueil, finalement, dans sa production musicale. Qu'est-ce qui va, pour nous, nous apporter de la valeur quand on va réécouter notre son? On va se dire, ah putain, je suis tellement chaud. C'est incroyable. Tu vois, c'est à l'époque, je me souviens, il fallait sampler, quoi. Il fallait diguer des samples, il fallait prendre une musique qui existait déjà, trouver une boucle, ou alors choper et faire son propre son. Et si tu faisais pas ça, t'étais pas un vrai beatmaker, quoi. Puis après, utiliser des MIDI. Il y a aujourd'hui, on en a même chez Supersample qui méprise un peu les gens qui cliquent les MIDI. Je sais pas s'il y en a qui font ça dans la salle.
C'est quoi un MIDI?
Les MIDI, c'est quoi? C'est 12h après minuit. Ok.
Et sinon?
Les MIDI, non, c'est des notes en fait que tu viens cliquer dans ton piano virtuel pour créer des mélodies ou des accords. D'ailleurs, l'IA fait ça aussi aujourd'hui assez bien, quoi. Tu vas lui demander une émotion, ça va te créer une suite d'accords qui est plutôt legit, quoi.
Assez bien, pas vraiment aujourd'hui là, pour l'instant.
Moi, je trouve ça cool hein, comme base de départ. Mmh. Et donc, du coup, après qu'on ait accepté ça tous, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 5-6 ans, les boucles sont arrivées. Donc, les gens ont commencé à partager sur Looperman. Yeah. Des boucles, et puis on était là, nous les beatmakers à l'ancienne, on était, c'est un peu facile quoi, vous prenez votre boucle, elle est déjà faite, vous placez vos drums trap pas très créatives et puis vous avez un beat. Mais finalement c'est devenu accepté par la plupart, hein, par moi-même. On a même Arcade maintenant qui fait ça, ou Playbox je crois que c'est, qui va
faire le logiciel en fait pour les
Splice,
beatmakers.
Splice aussi.
Hein?
Splice aussi.
Même Splice, c'est un outil d'IA qui tu lui donnes ta prod, il va te proposer des sons qui vont bien avec. Donc tu peux faire ta prod complètement qu'avec l'IA. L'essentiel, ça va être où est-ce que tu vas placer ton orgueil de dire « Ah, j'ai ma valeur ajoutée. Ce beat-là, certes, je me suis fait aider par de l'informatique, par des développeurs d'une intelligence artificielle qui quasiment ont collaboré avec moi pour créer mon son. Mais moi, j'ai apporté ma valeur ajoutée et puis j'ai quelque chose qui m'est propre, quoi, qui me ressemble. »
Je crois que c'est ça. Tout à l'heure, il y a eu juste une question là qui reste en tête, c'est on apprend où tout ça? Est-ce qu'on doit l'apprendre à l'école? Est-ce qu'on doit distinguer à l'école l'intelligence artificielle du reste? Ou est-ce qu'on l'apprend sur le tas? Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est on bidouille, on apprend, on essaye de faire les trucs par nous-mêmes. Mais en fait, voilà. Où commence l'école, où s'arrête l'école et où commence notre travail.
On parle de musique ?
Tout ce que vous avez dit, les sites web, la musique, juste l'utilisation des logiciels.
Internet, YouTube, les tutos, quoi, c'est toujours pareil.
Ouais.
On a une chance incroyable, je crois qu'on ne s'en rend pas compte d'ailleurs, d'avoir accès à Internet de nos jours. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas quel âge vous avez l'air extrêmement vieux dans l'Assemblée. Bon, il y a un peu de tout. Mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, il n'y avait pas Internet chez moi. Et là, je vois les petits qui naissent avec ChatGPT. Ils ont une source incroyable, quoi. Les philosophes, les mathématiciens, les savants, de manière historique, ils n'auraient jamais pu imaginer que ça existe. Là, aujourd'hui, tu as juste à taper une phrase et tu peux accéder à toute la connaissance sur un sujet et puis te former, t'auto-former. C'est fou, là. Je crois que... on vit à une époque exceptionnelle.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs supports et plusieurs manières d'apprendre. Ça veut dire qu'en gros, si tu as envie d'apprendre la musique parce que tu veux apprendre un instrument, bah, tu vas au conservatoire ou tu peux aller sur Internet et prendre des cours en distanciel. Tu peux aller à la bibliothèque si tu as envie d'y aller. Tu peux, il y a vraiment plusieurs outils et de manières d'apprendre. Moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est le partage. J'en parlais avec un ami justement tout à l'heure. C'est le partage avec les autres, du coup. Et moi, ce qui me plaît, c'est justement de jouer avec d'autres personnes et de voir ce qui se crée par rapport à ça. Et ça, c'est tu peux jouer avec un batteur ou un autre artiste. Ça se trouve, tu vas pas ressentir les mêmes émotions. Parce que du coup, il y a une espèce d'alchimie qui se crée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très humain, en fait. Et en fait, tout dépend. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que ça dépend pourquoi tu fais de la musique. Est-ce que tu fais de la musique parce que t'es bien, t'arrives à jouer chez toi? Justement, j'en parlais avec mon ami tout à l'heure. Lui, il joue bien de la basse, tout seul. Du coup, moi, j'arrive pas. Si je prends la basse, il me faut un batteur. Mais il faut que je le voie en vrai, du coup. Donc, c'est pour ça que ça dépend, en fait, de chacun, du coup. Et ce qu'il faut, ce qui peut être dangereux, c'est que tout aille sur l'intelligence artificielle et il faut qu'il y ait une diversité. Ça veut dire qu'en gros, il faut continuer à donner des cours dans des conservatoires.
Non, mais en plus, ce que tu...
Faut continuer à donner des cours dans un conservatoire parce que du coup, il faut qu'il y ait cette pratique qui continue.
Ouais.
Il faut aussi apprendre différents styles parce que sinon, du coup, on va se laisser avoir par l'évolution et tout ce qui est ancien instrument, je sais pas, une contrebasse ou c'est quoi, le hautbois, plus personne ne va en faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que la culture, c'est intéressant.
Excuse-moi de te couper, mais pour le coup, je trouve qu'en fait, le fait qu'il y ait des outils d'intelligence artificielle à disposition, ça aide les artistes en développement parce que par exemple moi du level où je suis, j'ai pas forcément accès facilement à un batteur ou un guitariste. C'est à dire que j'ai beaucoup travaillé en autodidacte, en home studio, donc souvent il y a ce pseudo isolement. Et donc en fait l'intelligence artificielle des fois peut t'apporter ce que tu trouveras difficilement dehors. Après, ça, c'est peut-être aussi une facilité pour être honnête. Mais oui, il faut le dire, il y a beaucoup de précarité, en fait, chez les artistes en développement. Et par exemple, moi, j'ai transformé ma voix. Si je transforme ma voix, c'est justement pour atteindre, pour avoir un grain que je n'ai pas moi-même avec ma voix. Et donc, c'était plus dans ce sens-là. Et derrière, il y a aussi le processus créatif. Pour moi, je trouve ça hyper créatif. Et après, derrière...
Donc tu penses que tu gagnes des années? Genre par rapport à un artiste qui a appris juste sur le tas, tu penses que tu gagnes des années?
Je vais pas dire... je gagne du temps, en fait. Parce que sinon, il faut aller chercher justement le batteur, il faut aller chercher le vocaliste, il faut aller chercher... et en fait, c'est très difficile. Les artistes sont un peu fermés sur eux-mêmes. On a un peu des coquilles, donc c'est pas facile en fait d'approcher un artiste. C'est très difficile, faut se mettre un peu à nu des fois pour aller voir quelqu'un et dire oui, j'aime bien ta musique, j'aime bien ci, viens on fait ci ensemble. Et donc aujourd'hui on est dans une industrie, la musique c'est devenu une industrie, donc il y a plein de codes. Et là en fait l'intelligence artificielle ça t'exonore de ça très rapidement. Donc je conçois, je le comprends, ceux qui utilisent justement cet outil comme ça quoi.
Mais je trouve ça vachement intéressant ce que tu as dit là, que l'intelligence artificielle, ça t'exonore de certains codes. Moi, j'avais pensé à un potentiel risque que l'intelligence artificielle uniformisent un peu la musique, comme genre les type beats ou les trucs comme ça. Est-ce que vous pensez quoi de ça, dans le sens où est-ce que vous pensez que on peut aller vers une uniformisation de la musique, un peu une disparition des genres et de la diversité aussi dans les beatmakers et dans le beatmaking à cause de l'IA, ou au contraire l'IA peut stimuler la créativité et créer d'autres formes de créatifs, de créateurs et d'autres formes de musique aussi qu'on n'a jamais entendu avant?
Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le besoin humain d'unicité, quoi, d'originalité. On a tous envie de faire notre propre bail, notre propre truc, ou que personne ne peut reproduire, que tout le monde veut copier, mais que personne n'arrive à y gagner. On est tous dans notre... Enfin, même si on est au sein d'un crew et on se rejoint tous en collectif, j'ai l'impression qu'on a besoin de ça aussi, de collaborer, ce que tu disais tout à l'heure, super important, mais on a tout le temps envie d'avoir notre propre patte. Et après, les outils qu'on utilise pour arriver à notre propre patte, c'est encore autre chose. Je vois, je sais pas si vous avez écouté ça là, avec ce dont tu parlais. Je parle beaucoup, c'est ça?
Non, dans 45 minutes, on fait ce qu'on veut.
Parle.
Bah oui, mais pour parler des intelligences artificielles qui peuvent créer des acapellas. Je sais pas si vous avez écouté des albums faits par intelligence artificielle de Travis Scott ou Playboi Carti. Et consorts, j'ai l'impression qu'on va arriver à une époque où peut-être les beatmakers, les producteurs d'Internet, ils vont faire des meilleurs albums que les artistes en question. Parce que moi, il y a des albums de Travis Scott que j'ai écouté en ligne qui sont meilleurs que Utopia. Je vais le dire, ok, moi, je n'ai pas peur. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler dehors tout à l'heure.
On prépare un octogone.
Quand même, dans l'émulation. Je trouve que dans l'émulation, il y a quand même une limite. Ça veut dire que, et puis surtout, il y a certains artistes qui ont un grain et une sonorité qu'on a du mal à émuler. Enfin, pour par exemple les Daft Punk, on sait pas vraiment comment ils travaillent, ces mecs-là. Enfin, à peu près. Pareil, même dans l'électronique, on prend des gens comme Aphex Twin et tout. Il y a un mystère autour de leur production musicale. Et donc, je pense que, il y a certains artistes pour qui, il est très difficile pour une intelligence artificielle d'imiter, à la perfection, leur travail. Et puis même, toute la musique traditionnelle, avec les instruments comme la kora, des sons africains, ça va être difficile, ouais, je pense, pour une intelligence artificielle de faire ça, bien, pour le coup.
Ouais, mais juste pour reprendre ce que tu dis là sur la Quora, il y a tellement une habitude et puis une comment t'appelles ça, ça a tellement été fait par ethnie de père en fils, qu'il y a des choses que tu peux pas, ça pourra pas disparaître avec l'intelligence artificielle, ça t'es obligé de le garder par transmission. Ouais. Et donc ça, c'est sûr, il y a des choses que tu pourras pas remplacer.
Et ça après, pourrait pas être assimilé par l'intelligence artificielle non plus, quoi.
C'est même pas possible. Parce que déjà, en plus, est-ce qu'il y a des personnes qui vont y aller, essayer de transmettre des choses qu'on n'a pas mis par écrit? C'est juste des choses que tu as mis par oral, et là, tu vas essayer de le mettre dans une intelligence artificielle. Ça, j'y crois pas trop.
Donc tout n'est pas transmissible à l'IA, quoi.
Ouais. Bah, surtout, je pense, pour la musique expérimentale, c'est compliqué. Après, pour la musique très mainstream, vu que... c'est très documenté, je pense que c'est plus facile.
En fait, le machine learning, ça fonctionne. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Même ceux qui développent des intelligences artificielles, par exemple, de génération d'images, pour prendre un exemple connu, ils vont nourrir leur algorithme de beaucoup d'images en les associant à des mots-clés. Et après, suite à ça, tu vas taper, par exemple, tu donnes plein d'images de chats à ton intelligence artificielle, à ton LLM. Tu vas taper chat, généralement une image de chat, il va te créer une image de chat, mais t'es même pas capable de savoir pourquoi il dit que c'est un chat, quoi. Mais il va y arriver. Et c'est sur des monceaux de données énormes, hein, bien sûr. Donc il suffit qu'on ait la data pour entraîner n'importe quel LLM, large langage modèle, pour reproduire n'importe quoi, quoi. Mais le nerf de la guerre, c'est la data en entrée pour l'entraînement des modèles, quoi.
Ce qu'on disait, en fait, c'est si t'as pas de data, par exemple, on reprend l'exemple de certaines tribus qui font de la musique comme ça, s'il n'y a pas de data ou très peu, comment est-ce que derrière tu peux reproduire quelque chose alors qu'on n'a pas de banque de données?
Tu parles au niveau textuel, sonore,
ouais.
C'est ça? Ah oui, parce que la culture, elle est orale, c'est ça, dans ces...
Ça ou d'autres, en fait, vu que l'IA, elle a été créée en Occident... Bah, en fait, sur les autres continents qui ne l'ont pas alimenté ou qui ne l'alimenteront pas de la même manière, tu fais comment?
Ouais, ça, c'est vrai que c'est un gros sujet de justement l'invisibilisation de certaines cultures, mais même au niveau de la France, tu vois, par exemple, tu regardes ChatGPT avec OpenAI, le taux, enfin, la data française pour l'entraînement des LLM, elle est ridiculement petite par rapport aux data anglaises. Même si en France, on a beaucoup de documents qui sont en libre accès, open source. OpenAI, il utilise des data qui sont pas normalement libres de droit. Donc je pense par exemple à YouTube. Ils ont scanné tout YouTube. Là, récemment, il y a eu un accord qui a été fait avec Reddit. Donc si vous utilisez Reddit... Toi, je pense que tu utilises Reddit, t'as la tête d'un éditeur. Désolé, je rigole. J'utilise Reddit aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, ils utilisent nos data sans nous en parler. Et ça invisibilise forcément tous ceux qui sont pas présents sur Internet. Quoi. Et peut-être ça les tend à disparaître dans le cadre d'une utilisation de l'IA qui serait généralisée.
On se posait une question aussi avec Moudiama en préparant l'émission, c'est est-ce que ça peut aider les femmes? Est-ce que ça peut aider les femmes?
Elles n'ont pas besoin d'aide.
Pour le beatmaking. Ah, d'accord.
En fait,
donc
plutôt dans le sens, est-ce que ça peut aider les minorités de genre ou les genres qu'on voit moins dans certains axes de la musique, parce que peut-être que le beatmaking est vu comme tellement technique que ça peut être intimidant pour certaines personnes ou que ça peut être... Est-ce que ça peut justement le rendre plus accessible et développer justement un nouvel axe de créativité ou quelque chose comme ça? Question pas facile, mais question...
Pour les mettre en avant, c'est ça?
Ouais.
Ou pour les aider à développer leur musique, les aider à...
En fait, il faut que les initiatives viennent des principales concernées, hein, si on parle des femmes, mais des principaux concernés au sens large, des minorités. Entraîner des LLM, certes, c'est coûteux. Je pense, dans mon podcast, j'ai reçu Michel-Marie Maudet, vous connaissez bien sûr, qui développe son propre LLM français, Made in France, et qui collabore avec aussi des ethnies asiatiques, qui, pareil, ont le même problème d'invisibilisation au niveau des IA. Et du coup, il faut que les initiatives elles viennent des principaux concernés. En France, on a constaté que ChatGPT, c'était l'hégémonie. Quand on parle d'IA, tout le monde pense ChatGPT. On a constaté qu'on était très mal représenté au niveau culturel, hein, parce que forcément, le français, si vous parlez avec ChatGPT en français, il va très bien vous parler. Seulement, si vous lui demandez la recette du bœuf bourguignon, bah, peut-être qu'il va vous sortir la recette du bœuf bourguignon qui est faite à Los Angeles dans un resto français, et pas la recette du bœuf bourguignon qui est faite en Bourgogne, ici en France, dans les grands restaurants. Quoi. Et donc, à terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recette du bœuf bourguignon, parce que c'est une cause qui m'est très chère, et bah, ça va devenir celle de Los Angeles. Est-ce qu'on veut ça? J'ai pas entendu.
En vrai, dans la partie de culture, on aurait pu parler de bœuf bourguignon, mais bon, c'est pas vrai.
Et puis c'est le même problème du coup pour toutes les autres minorités.
Ouais, mais personne, enfin, ça se trouve la recette du bœuf bourguignon de la maman de lui ou du papa ou de, elles sont toutes différentes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en gros, ce qui est intéressant quand tu parles de cuisine, c'est que tu peux avoir un plat qui a pas le même goût en fonction de la personne qui le cuisine, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans la cuisine. Est-ce que, par exemple, si on prend des livres de recettes et qu'on suit cette recette-là, ou qu'on prend une recette que ma mère sait faire, et moi je vais dire c'est le plat de ma mère, et je vais kiffer ce plat-là parce qu'elle fait le meilleur plat, et après, pareil pour chacun, tu vois. Ce qui compte, c'est la diversité, justement, et l'authenticité, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant dans l'humain, en fait. Et ce qui me dérange un peu plus dans le côté... on parle de numérique, hein, parce que tout ça, par exemple, si moi je regarde la même vidéo d'un youtubeur qui va expliquer comment faire un beat et qu'on est 10 000 à regarder, on va tous faire pratiquement le même beat, on parle tous de la même base. Alors que dans une école de cuisine, bah, en fait, chaque individu va transmettre sa culture,
son
savoir-faire, et c'est ça qui fait qu'on est différent et qui fait de la diversité. Et c'est pour ça que moi, je trouve que en mettant moins d'humains, justement, on arrive à ce problème-là.
Du coup, pour filer la métaphore de la cuisine, ce que tu décris, c'est la cuisine fusion, je crois que ça s'appelle. Et à côté de ça, c'est où tu vas mélanger différents types de cuisine. Et à côté de ça, tu vas avoir la cuisine française, qui a quand même une aura à l'international. Hein. Je pense que la capitale européenne de la gastronomie, c'est Lyon. Vous êtes peut-être allé dans des bouchons. Pourquoi on parle de ça là? On n'était pas.
Parce que en fait, je pense que tu as voulu rendre compréhensible un sujet incompréhensible.
Et vu qu'on est bientôt l'heure de l'apéro, il y a moyen de faire quelque chose.
Pierre qui a une super métaphore sur l'IA avec la voiture. Elle t'a dit, je te laisse.
Avec la voiture, donc on passe du bœuf bourguignon à la voiture.
Non,
c'est ça.
Il y a l'essence, il y a quelque chose.
Non,
y a
d'accord.
Je ne l'ai pas bien formulé la première fois, je pense que je vais essayer de mieux la formuler cette fois-ci. Je disais que Léa, c'était un peu comme quand on se pose la question que demain, vas-y, il n'y avait pas la voiture qui existait, et juste on poussait des caddies, tu vois. Maintenant, demain, on sort une giga voiture et roule et tout, il n'y a pas de souci, attends, venez, tu vois. Et il y en a qui vont être un peu dans la position de dire, ouais, mais moi, je suis un vrai DJ, je pousse des caddies depuis 1980, ne parle pas de ta voiture, tu vois. Mais il faut quand même accepter que la voiture, elle me paraît d'aller plus vite et plus loin. Et pour moi, là, avec l'IA et surtout dans la musique, c'est un peu ce côté-là, de me dire, attends, je peux en même temps faire beaucoup plus de trucs et aller plus loin. Et en même temps, j'ai envie de faire mon puriste parce que j'ai envie d'aller triturer mes sons. Mais pour revenir à ce que vous avez dit genre, juste avant, je pense que c'est assez juste le fait qu'on a toujours à la recherche de cette chose unique. Du coup, que même si on nous donnait tous les outils pour, il y aura toujours quelqu'un. Par exemple, tu vois, Photoshop, ça existe. On peut faire des trucs de dingue très facilement dessus, mais il y aura toujours quelqu'un qui va dessiner à la main parce que, OK, c'est ce type de trait qui m'intéresse, que je veux ajouter après. Et je pense que c'est un peu un mix de tout ça qui fait... que pour moi, l'IA, c'est pas un ennemi et que c'est toujours un truc qui pourrait faire aller plus loin, comme les recettes et tout.
Je pense en termes de qualité, malheureusement, je vais pas être d'accord avec toi. Ouais. Si on parle de dessin, tu vois, Midjourney, Stable Diffusion, ça donne des résultats qui sont quand même incroyables au niveau qualitatif. Mais la différence, ça va se faire que bah, c'est pas toi qui l'as créé, quoi. C'est pas, t'as très peu de valeur ajoutée au final. Même si aujourd'hui, on a des. Comment on appelle ça là, les digital artists qui créent avec l'IA, les IA artists, ou je sais plus comment ils appellent ça. Un peu de mépris, vous l'avez entendu dans ma voix. Pour moi, si t'écris un prompt et que t'as une image à la fin, j'ai beaucoup de mal à te considérer comme un artiste, quoi. Mais après, il y en a qui les retravaillent derrière et ça leur permet d'avoir des résultats. Mais c'est vraiment sur ce travail-là. Je faisais un peu le comparatif avec les négociants en art qui vont te montrer un tableau, par exemple. Et le tableau, bah comme ça, peut-être pour toi, il est beau, il est joli, bon, ça fait plaisir. Mais le négociant en art, c'est là où il va créer toute la mythologie autour du peintre qui a créé ce tableau, qui va dire bah, c'est un petit gars de New York, hein, il a grandi dans la misère. Son quotidien, quand il était petit, c'était les poubelles, il s'est nourrissé dedans. Et il a jailli de l'inconnu, comme ça. Et aujourd'hui, regarde ce qu'il nous peint. C'est incroyable, non? Et là.
Et tu parles de
peinture,
créativité quand même. Hein.
Comment?
Parce que là, tu es en train de faire une histoire. Donc tu utilises ta créativité, le prompt c'est une partie de la créativité, ouais. Tu mixes les deux en fait.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
On peut dire ça, mais tout ça pour dire que la mythologie et j'ai envie de dire la difficulté et l'improbabilité de l'existence de d'une œuvre, elle donne de la valeur à l'œuvre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Même si les IA c'est des systèmes probabilistes, donc du coup ça va te générer par exemple, bon là je me perds... moi, j'ai l'impression
reviens,
que...
Reviens.
Une œuvre, je vais beaucoup plus lui donner de valeur si j'ai l'impression que la personne s'est cassé la tête pour la constituer. Et j'aurais
mais
beaucoup
ça, c'est
de...
toi.
C'est moi, non, et c'est je serais curieux sais. D'avoir votre avis.
Mais en fait, comment tu le sais? Parce que ça se trouve, l'artiste, elle peut te raconter... Il ou elle, d'ailleurs, peut te raconter n'importe quoi.
Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah. Si demain, tu me sors, on va dire, à quelqu'un qui m'imprime une photo, voilà... Je vois, il fait un truc, c'est une impression, ça sort.
Avec un beau papier.
Avec un beau papier, ouais. Et que derrière, il met le papier dans le cadre et qu'en fait, je sais qu'il y a un seul exemplaire et qu'il ne peut pas le réimprimer. Elle va, la photo où il y a un seul exemplaire, où il y a pas le, justement, on ne peut pas le reproduire, va prendre beaucoup plus de valeur.
Tout de suite.
Complètement.
Alors que,
oui, mais il faut le scanner. Du coup, mais l'original, tu vois, il y aura ce côté-là, original. Moi, j'ai la première. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Je vois, moi, je suis pas trop d'accord avec ce point de vue.
C'est
parce
le problème
que je pense
des
que...
NFT que tu viens de décrire.
Hein?
C'est le problème des NFT qui vient de décrire. Toute la bulle, là, qui est en train d'exploser. J'espère que vous n'avez pas acheté des NFT dans la salle. Je vois des,
on a un conseiller ce soir.
Des gens qui baissent la tête là-bas, il est en train de les vendre certainement.
Du coup, Pierrick, toi, tu disais?
Ouais, non, je disais, j'étais pas trop d'accord avec cette idée parce que, par exemple, tu vois, tu peux dire. Enfin, je pense pas que le travail, il se trouve dans l'effort et la dureté de la réalisation pour dire que ça a de la valeur. Et un peu pour reprendre ce qu'il avait dit, je pense que, par exemple, tu as écrit un prompt de malade. Le fait de pouvoir se dire, toi, t'as peut-être la personne qui a créé ce prompt en mode j'ai pensé à aligner telle ou telle chose, bah, c'est déjà un truc en soi. Et puis, du coup, ça aide à faire pour ceux qui n'ont pas les ressources pour, dans ce moment-là, d'aller plus loin dans ce qu'ils peuvent proposer sans devoir passer par exemple par d'autres trucs qu'ils n'auraient jamais pu avoir s'il n'avait pas ça. Du coup, ça, je ne suis pas trop d'accord avec le fait que ouais, c'est la dureté okay. du taf qui fait que t'es
un Donc, artiste. T'es un pro prompt engineer, c'est ça?
Je suis un pro, adapte-toi. Genre, il y a des nouveaux trucs, utilise-les. Si tu ne veux pas, ne les fais pas, tu vois.
Oui, c'est ça. Plutôt ça. Moi, c'est, je suis d'accord avec toi hein, sur l'essentiel. C'est vraiment de considérer que tu as rentré une phrase dans un outil qui a été développé par quelqu'un d'autre et de considérer que c'est toi l'artiste en tant que tel, tu vois, sans plus d'activité dessus, sans plus d'action. Pour moi, j'ai du mal à considérer ça comme une œuvre à part entière. Tu vois. Pour moi, t'es juste un bidouilleur. Quoi.
Mais si demain, genre, je joue Photoshop, je mets une image, je fais dupliquer 4 fois, mais j'allume bien ça, et je te dis, c'est mon taf. Tu serais pas d'accord avec ça?
Si tu m'expliques le process, j'aurai moins de respect pour ton travail.
T'as besoin de storytelling, quoi. T'as besoin qu'on te vende le truc, quoi.
Ah, vendez-moi le truc.
Je vais juste. Bah, 45 minutes, en vrai, ça passe super vite. Donc là, on arrive à la fin. Mais en fait, je voulais vous poser une dernière question. On va reboucler sur le sujet. Et tout simplement, chacun d'entre vous, en un mot, et ensuite dire pourquoi très rapidement.
Une seconde max, au final,
l'IA. Allié ou ennemi de vous en tant qu'artiste, en tant que beatmaker?
C'est pas un ennemi pour moi. Ça peut être un allié pour faciliter ce que tu disais tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que ce qui compte dans ma pratique personnelle, c'est l'apprentissage. C'est ce que moi je vais apprendre. Parce que, en fait, ce que j'aime, c'est pas le résultat de la musique, c'est le fait d'apprendre à le faire et tout. C'est le chemin qui compte pour moi. Mais c'est un allié parce que ça fait gagner du temps.
Merci.
Moi je dirais plus allié parce que en vrai ça fait partie de notre l'ère du temps, il faut vivre avec son temps, donc allié hein.
c'est la voiture merci,
qui n'est plus à la mode aujourd'hui 2024, prenez vos vélos.
Moi j'aime bien ce qu'avait dit Alexandre Astier dans Hot One.
Ah, un mot
hein, je l'ai pas regardé celui-là.
Ça n'est Europe, mais il avait dit qu'il n'avait pas peur de l'IA. Pour lui, c'était un allié, du coup, et c'est mon avis aussi.
D'accord.
Il m'a convaincu, je dis comme Alexandre Astier, c'est très simple. Ça doit faire peur aux mauvais beatmakers, en fait. Aux beatmakers qui ne se remettent pas en question et qui ont peur d'être remplacés par une IA, du coup, parce qu'ils n'apportent rien et parce qu'ils n'ont rien envie d'apporter, certainement. Parce que s'ils le voulaient, je pense qu'ils pourraient apporter quelque chose, ces beatmakers. Donc pour moi, c'est un allié, c'est en aucun cas un ennemi. Quoi.
Ok, merci.
Ils ont tout dit, hein. Franchement, allié et... Faut pas en avoir peur, je pense, c'est ce que j'ai à dire.
Adapte-toi. Trois alliés clairs.
Ouais.
C'est beau.
Bah, merci, franchement, merci beaucoup.
Merci à vous
quatre. Merci à Junior, merci à Shrapsus, merci à Pierrick, merci à Abramzo le plug. Et pour vos interventions.
Des actualités ?
Ah bah oui, petit tour des... Est-ce que vous avez des actualités que vous voulez partager ? Petit tour de manière succincte.
Est-ce que Junior, tu veux parler de l'Académie du Sample ? Très rapidement.
Oui, en gros, là, c'est une association musicale. On est sur Villers-le-Bel, du coup. Et nous, on fait des ateliers de musique sur la culture du sampling.
Donc, okay, voilà, ça marche.
Pour faire simple. Et du coup, on a un
Villers-le-Bel dans le Val d'Oise.
Dans le Val d'Oise, dans le 95. Ouais.
C'est la maison.
Ouais. Yes. Là, on va avoir un atelier pendant la période des JO. On va avoir quatre atelier dans un pop-up store, vous le verrez sur l'Insta.
Lourd.
Et donc voilà, avec une marque, donc ça va déchirer. Donc comme j'aime pas trop parler, vous le saurez plus tard.
Ça
yes.
marche. Marianne. Yes. Valeurs actuelles, je pense, c'est la marque.
Je serais venu, actu
Mon actu, du coup, mon podcast, un épisode qui sort bientôt.
Quality Time.
Quality Time sur toutes les plateformes de streaming. En un mot. Également, super simple. N'hésitez pas à venir nous rejoindre au meet-up. On fait du beatmaking avec des challenges. Là, on est en train de gamifier.
Yes.
Le meet-up.
C'est quoi, super simple?
Super simple. En fait, vous venez, on vous offre un sample. Ça, c'est vraiment la version basique, mais ça va évoluer. C'est tous les dimanches aux Marquises pour l'instant.
Dans le 11e.
À partir de 16h30 à Oberkampf. Sur la ligne 2.
Non. Ça, c'est bon. On est là tous les dimanches. Super simple Paris sur Instagram.
Voilà.
Ok, ça marche.
Pierrick, actu.
Du coup, nous c'était 4:30 PM. Pour l'instant, on fait plusieurs choses. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on essaie de mettre en place qui viendront dans le temps. Mais sinon, si, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir. On est à Anières sur la ligne 13.
Et il y a des réseaux.
Oui, il y a des réseaux. 4:30 PM. Du coup, c'est tout pour l'instant.
Et Bramzo, de toute façon, oui, Bramzo.
À part projet, le fait qu'on te voit dans 3 minutes.
Yes.
Voilà, là, on a sorti un projet le 31 mai, l'album Fusion en commun avec Sharky, qui est là avec le t-shirt du Real Madrid. voilà, donc c'est un projet en commun qu'on a travaillé sur un an. Donc on a produit à deux, on a produit toutes les prods, il y a les enregistrements, il y a Bimax qui est là au mastering. Donc voilà, c'est un projet qu'on va promotionner pour minimum 6 mois, je pense, et voire plus après à voir en fonction. Et puis voilà, il y a un studio à disposition aussi, à Sentier, studio Odessa. Voilà. Si vous voulez réserver, si vous voulez les enregistrements.
Merci à tous
les quatre. Merci à vous quatre. Franchement, merci.
Merci à tous les quatre et on est à l'heure. C'est incroyable.